What is this, Connor?
Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded, sir.
Get
it's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che dice? Come fa che dice?
Et bonjour à toutes et à tous les cinéphiles du vendredi, bienvenue dans Cinémascope, le cinéma, non, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche avec fougue, passion, enthousiasme, rage quelquefois et amour toujours. À l'affiche aujourd'hui pas mal de combats et de relations fortes pour lutter et Olivier, tu veux que je te passe le micro, peut-être ?
Non.
Tu vas présenter cette émission.
Oui, alors cette émission, le magazine donc du cinéma du vendredi 12h10, rediffusé à 17h10, donc le soir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de travailler avec Cathy.
Ah bah oui, d'accord, bonjour.
Avec Alexis, qui nous vient d'Evance.
Hello à tous.
Et puis Sophie, qui présente normalement l'émission, mais qui a donné l'impression là de me passer le bébé.
Non. Salut Olivier, mais je ne sais pas, tu trépignais à mes côtés, je me suis dit, mais peut-être qu'il veut animer.
Pas du tout. J'ai une petite remarque, est-ce qu'on n'est pas sur les personnes qui comptent? Ceux qui comptent.
Oh,
c'est joli. Tu devrais faire de la radio, toi.
Eh bien, mais en fait, c'est une animation tournante, mais au sein d'une même émission. Donc maintenant, c'est Alexis qui anime l'émission avec cette parfaite transition, puisque nous allons effectivement parler de ceux qui comptent. On va parler également de la danse des renards, de Promis le ciel et de Orwell, de plus de égal 5. Eh bien, on commence tout de suite avec ceux qui comptent.
Moi, c'est Rose. Et vous ?
Ouais, touchez pas à cette porte.
Ah !
Putain de merde !
Ben oui, ça brûle !
C'est qui ?
Mais c'est quelqu'un.
Mais t'es un clodo.
C'est quoi ?
Putain de bordel de merde. C'est quoi ce délire avec les papiers peints ?
Mais qu'est-ce qu'ils ont, mes papiers peints ?
Nous ne sommes pas pauvres, nous sommes fauchés.
Quand on peut pas se nourrir, on veut au Resto du cœur.
Est-ce que je vais voler les pauvres au lieu de voler la grande distribution ? Bravo. En tout cas, c'est vraiment gentil d'avoir pris ma défense.
Hein. Wow, j'ai besoin de vous.
Vraiment, c'est n'importe quoi. Vous êtes complètement inconsciente.
Ah ben oui, elle l'est, inconsciente. Mmh. Ce qui compte de Jean-Baptiste Leonetti, avec, on l'a entendu, là, Sandrine Kimmerlin et Pierre Lottin. Olivier.
Ben c'est un film que j'allais voir pour voir, quoi, comme ça. Et puis qui, au début, m'a un petit peu déstabilisé. J'ai eu l'impression d'être devant un long, long clip vidéo. Je voyais pas la narration vraiment enclenchée. Je voyais pas l'histoire commencer. Et donc, j'ai été longtemps un petit peu en suspension. Cette impression première, elle a progressivement été modifiée par la, je dirais déjà la qualité, non pas d'écriture, parce qu'il y en a presque pas, mais la qualité des personnages. Le personnage incarné par Sandrine Kimmerlin est original. C'est une femme qui a une formation à l'école hôtelière. Elle est chef de cuisine, finalement. Elle a 3 enfants, elle est veuve, et elle s'en occupe tant bien que mal au sein de ce qu'elle voudrait voir devenir un hôtel, restaurant étoilé, quoi. Enfin, quelque chose comme ça. Et puis le personnage de Pierre Lottin est intéressant aussi. Un homme plutôt jeune, mais pas non plus... un jeune homme qui vit, on l'entend un petit peu au début de la bande-annonce, qui vit dans une camionnette, quoi, hein, à laquelle Sandrine Kimmerlin met le feu en poussant la mauvaise porte. Le personnage de Pierre Lottin est original aussi, c'est un beau ténébreux, on sent qu'il y a un passé vraisemblablement difficile qui rend pour lui la toute communication compliquée. Enfin, voilà. Et puis il y a les 3 enfants de Sandrine Kimmerlin qui sont 3 enfants à caractère assez fort, le jeune, l'aîné, 17 ans, qui part un peu en vrille, la seconde qui suit des cours dans une école de couture, comme si elle voulait faire dans la couture ce que sa mère a fait dans la cuisine, vous voyez. Et puis la toute petite, la dernière, celle qu'on a entendue parler, dire des gros mots là derrière la porte, voilà. Et donc voilà, une galerie de personnages vraiment intéressants qui ont des histoires supposées, elles aussi, assez intéressantes. Aïe. Mais on voit pas tout ce matériel donner naissance à quelque chose d'un petit peu ficelé. C'est d'autant plus dommage que la photographie, la mise en scène, le jeu des acteurs est vraiment intéressant. Donc on a l'impression de beaucoup de bonnes choses dont on n'arrive pas à faire un tout un petit peu, oui, un petit peu organisé et sinon fermé sur lui-même, du moins au moins unifié, quoi. Bon, ceci étant dit, j'ai quitté la salle en me disant que j'avais peut-être vu un genre de film, finalement. Que peut-être le cinéma n'était pas obligé à chaque fois de raconter une histoire très, 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 très claire, que peut-être c'est cet état de suspension, de questionnement dans lequel ça nous met, c'est peut-être aussi une vertu du cinéma, quoi.
Mais on l'a entendu, ça se veut être une comédie, donc avec quand même un peu de rythme.
Oui, mais justement, un petit peu un rythme comme dans un clip, vous savez, les clips vidéo qu'on fait ou qu'on faisait pour à la sortie des singles ou des albums comme ça. Donc effectivement, le clip il est rythmé par la musique même qui présente. Enfin, ça paraît logique. Donc il y a effectivement un rythme, mais un rythme ça vous donne pas une mélodie, quoi. Voilà, ouais. C'est un peu ça l'idée. Voilà. Mais c'est pas grave. Personnellement, j'écoute beaucoup de la. Enfin, je l'écoute pas tant. Enfin, j'écoute quand même de la musique non mélodique. Ça s'entend. Je sais pas.
Et donc, peut-être aller voir un film non mélodique.
Oui. Enfin, voilà. Si le terme.
Ce qui compte.
Voilà. Si le terme est approprié, j'en suis pas bien sûr. Mais enfin, il y a quelque chose comme ça. Donc oui, aller le voir pour cette rencontre avec des personnages, comme on dit, haut en couleur, et parfois drôles, effectivement, mais parfois tragiques. Hein. C'est une tragicomédie, plutôt. Oui.
Donc, ce qui compte de Jean-Baptiste Leonetti, à voir à Aubenas. On continue.
Allez. Bien. Oh, t'as mal, là ?
Je vois aucune lésion qui puisse expliquer tes douleurs. Médicalement, c'est pas possible ce que tu ressens.
J'ai l'impression que depuis que t'as repris, t'es pas motivé, y a rien là.
C'est mon bras, c'est toujours mon bras.
T'es vraiment différent des autres. Tu pourras aller de loin si tu voulais.
Mais les gens, ils m'aiment que pour ça.
Tu lui dis quoi, le PF Nasser, sur toi? Que depuis ton accident, t'as peur. Et que tu simules.
Ça fait 5 ans qu'on s'entraîne d'arrache-pied. Les championnats, ils sont dans 6 semaines.
Hé, hey, t'as tout, toi ! Nous, on a rien !
Mais qu'est-ce qui se passe dans ton crâne ?
J'ai la blessure !
C'est dans ta tête, tout ça.
La danse des renards de Valérie Carnois, avec Samuel Kircher et Faisal Anaflous. Valérie Carnois, qui avait déjà fait un court-métrage qui s'appelait Titan et qui parlait un petit peu de rites d'initiation, d'intégration. Alexis.
Oui, alors c'est un film, déjà encore un film de sport, vous allez dire, mais le gars il est à fond sur le film de sport. Après Le Rêve américain, on passe sur ce film-là. Alors, ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est qu'on va plutôt... le prétexte, on va dire, c'est le sport, parce que on va s'intéresser à la boxe, au sport études exactement. On va suivre Camille qui est donc en sport études en internat pour faire ses études et concourir pour aller en sélectionner en équipe de France jeune, et qui va se faire une grave blessure pendant son internat et qui va essayer de du coup dépasser ses souffrances suite à sa blessure et dépasser sa blessure, en tout cas faire travailler son mental pour aller au-delà de sa blessure guérie, parce que le film nous transporte dans un psycho, enfin comment dire, dans une douleur psycho traumatique, donc il va devoir dépasser cette douleur là et ça va nous parler surtout de mental, mais aussi de fraternité et d'amitié, pardon. Et donc au-delà de ça, la réalisatrice au départ a voulu travailler les corps, mais aussi la masculinité.
C'est un homme.
C'est un homme, oui, pardon. Camille est un homme, oui, j'ai pas précisé, c'est vrai.
Non, le réalisateur Valérie.
Oui, pas Valérie.
Et
oui,
Camille,
pardon,
est aussi un homme.
Oui, bah pardon.
Des hommes là-dedans.
Que des hommes, ouais, ouais, oui.
Non, trouble dans le genre. Pas que des hommes dans le film.
Oui, et en fait, donc, on suit le personnage de Camille qui va se poser des questions tout au long du film, parce que au départ on a ce stéréotype que la boxe est très masculine, quoi qu'il arrive. Lui a fait ses études dans le foot, le réalisateur, et donc a voulu transposer lui plutôt à la boxe, parce que le foot il n'y avait pas matière en fait à parler. Et donc pendant ses sports études il a découvert un petit peu ce que c'était le monde de la boxe, et il avait tous ces stéréotypes là, et il avait vu que cette équipe là était très unie dans le monde de la boxe, et il voulait justement parler de cela, et comment le masculin à l'intérieur de ce groupe émerge, et comment on peut laisser place à une sensibilité autour de ce sport là et moi j'ai beaucoup aimé ce film. Alors c'est un premier film qui peut paraître parfois fragile sur
premier long
qui peut paraître parfois fragile. Il a des défauts, il a aussi de très bonnes qualités. Moi j'ai tout de suite les images des alors on dit la danse des renards, mais parce qu'on voit vraiment des renards dans le film, hein. Il y a des scènes dans la forêt où on voit un petit peu la beauté de la nature et de la forêt, parce qu'il nourrit les renards à l'intérieur de la forêt. Alors je vais pas expliquer pourquoi, parce que ce serait un petit peu spoiler le film, je trouve, mais en tout cas ces plans là je trouve sont magnifiques, dignes de certains tableaux. L'image est plutôt bien traité, et pour ce qui sont des scènes de boxe en réalité, donc on sent vraiment les coups portés sur les scènes de boxe. Donc le réalisateur a vraiment décidé de se mettre au plus près en caméra embarquée sur l'image, et du coup on a vraiment l'impression d'être à la place de celui qui cogne, ou alors d'être cogné parfois. Enfin moi c'est le ressenti que j'ai eu, et du coup on voit vraiment la violence de la boxe et la violence de ce sport qui est très 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 masculin et très dans le mental. Et tout au long du film on voit que cette blessure là en fait va apporter cette sensibilité dans ce sport, et comment en fait la sensibilité elle est mise en avant, même voire pas mise en avant, on va dire plutôt cachée dans le sport. Parce que justement il y a deux points qui sont abordés quand même dans le film. C'est lui, il y a des gens qui ont l'impression qu'il simule sa blessure, et d'autres vont dire « je te comprends », donc ils vont être plutôt dans l'empathie, donc on va avoir deux regards qui s'opposent. Et en tant que spectateur, moi je trouve que j'ai eu aussi ces deux interprétations-là, pardon, et je trouve qu'on vacille de l'un à l'autre sans savoir ce qui va être réellement la vérité. Après, je laisse la parole à toi, Cathy.
Non, mais je vais pas dire grand chose. C'est vrai que ça fait partie de ces longs métrages. Je trouve qu'il y a beaucoup de longs métrages, premiers longs métrages qui sont exposés et qui sont bien exposés et qui sont vraiment en tout cas à inciter les spectatrices à aller les voir, parce que il y a quand même et notamment c'est le cas à travers ce film. C'est vrai que c'est pas un xième film qui sur le sport, enfin où il y a eu déjà plein de chemins labourés là sur le sport en général, mais qui se concentre un peu sur une forme de rivalité et qui interroge la définition de la masculinité, notamment, qui est quand même très très actuelle aussi dans le sujet de société. Même si l'intrigue est pas forcément, enfin voilà, est sans surprise, mais en tout cas, à travers en film, il y a pas mal de choses qui sont abordées et qui sont quand même bien abordées. Et pour un long métrage, un premier long métrage, c'est plutôt réussi. Et puis la prestation de Samuel Kircher, donc on connaît beaucoup son frère Paul Kircher, donc je ne suis pas particulièrement très fan. Là, je trouve que ce frère-là, Samuel Kircher, est très prometteur.
Ils ont quand même un peu la même dégaine au niveau du visage, où ils sont très fermés, un peu nonchalants. Moi, j'ai trouvé qu'ils ont une espèce de ressemblance au niveau de ça.
Ouais.
Et si je peux ajouter, le petit point, moi, qui m'a manqué dans ce film-là, c'est quand même il y a le personnage, où, en fait, il rencontre une fille dans l'internat, et je trouve que ce second rôle-là, en fait, il apporte pas grand-chose à l'histoire, et je pense qu'on aurait pu aller un peu plus en profondeur sur cette petite histoire d'amour qui l'aurait peut-être permis d'accentuer cette sensibilité ou de le faire avancer plus dans l'histoire, et c'est le petit, moi, manquement que j'ai eu, mais bon, voilà.
Ouais.
La danse des renards, Wild Foxes, c'est le nom anglais de ce film, de Valérie Carnoy, donc, qui est à voir au foyer à Rosières et à Privas à partir de lundi. On poursuit avec toi, Cathy, pour un autre film, Promis le ciel.
Tu es au bon endroit. Tu es venu chercher celui qui n'échoue pas, celui qui n'échoue jamais, le roi des rois pour l'éternité. Alléluia!
Alléluia!
Comme ça, on va bien s'occuper de toi.
Que les clients d'origine subsaharienne qui s'y trouvaient étaient raflés par la police.
Le tonton blanc là dit qu'on mange le chat. Toi, tu manges le chat?
Je vais te manger. Oh.
Le destin de femmes migrantes subsahariennes en Tunisie avec Promis le ciel de Erigué Seyiri. Je ne sais pas si on prononce comme ça, qui avait réalisé Sous les figues.
Oui.
Cathy.
Donc c'est son deuxième long métrage à cette réalisatrice franco-tunisienne. Le film raconte l'histoire de Marie, qui est une pasteure ivoirienne et une ancienne journaliste qui vit à Tunis. Elle héberge Nané, une jeune mère en quête d'un avenir meilleur, et Jolie, une étudiante déterminée qui porte les espoirs de sa famille restée au pays. Quand les trois femmes recueillent Kenza, 4 ans, rescapée d'un naufrage, leur refuge se transforme en famille recomposée tendre, mais intranquille dans un climat social de plus en plus préoccupant. Voilà pour le synopsis. C'est un film qui a reçu des prix, notamment au Festival du film francophone d'Angoulême l'année dernière. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le film, au-delà du fait que ce soit un film très bien réalisé, enfin, je trouve que là, aussi bien la caméra, on sent que c'est une réalisatrice qui aime ses actrices, parce qu'elle les filme extrêmement bien. Il y a aussi cette teinte plutôt bleue de Tunis. Mais c'est surtout l'histoire que ça raconte, parce que finalement, on a beaucoup raconté au cinéma des histoires de migrants qui veulent absolument aller en Europe. Et là, on parle de ces migrants qui vivent en Tunisie.
C'est la majorité des migrations
qui restent en Tunisie, mais le cinéma s'est pas vraiment approprié ce sujet. Mmh. On voit, enfin, alors, quand on lit un petit peu les choses, hein, depuis 2023, il y a une situation qui est de plus en plus difficile pour des milliers de subsahariens qui vivent en Tunisie, parce que leurs conditions se sont franchement dégradées. Il y a un climat raciste très fort envers eux, et ça, le film le retranscrit très bien, même si, effectivement, au sein de ce lieu, hein, que cette femme dirige, il y a une forme de protection, une forme de communauté dans lesquelles ils peuvent un peu se sentir à leur place, un peu aidés, épaulés, même si autour leur environnement est plus que mauvais et malsain. Et la force aussi du film, c'est d'avoir choisi aussi bien Aïssa Maïga, qui est une dans le rôle de Marie, qui est une actrice qui joue depuis très longtemps. Mais la vraie révélation pour moi, c'est Deborah Loeb Nané, qui a mis un petit peu de son propre parcours d'ivoirienne dans ce film, et qui est d'une justesse incroyable. Alors, cette fameuse justesse dont on parle souvent, c'est vrai, mais elle a une énergie et on a envie d'être avec elle, de l'aider, de construire quelque chose avec elle. Et je trouve que c'est vraiment un film dans lequel en tant que public, on peut pas rester indifférent à tout ce qui se passe, même si quand on allume notre télé ou notre radio actuellement, on est submergé de mauvaises nouvelles et de se dire que en fait il faudrait qu'on aille partout faire quelque chose, on a envie d'être utile en fait. Et ce film, c'est un peu ça aussi, c'est de se dire mais pourquoi, enfin comment on peut vivre dans un monde où il y a toujours autant de racisme, autant de haine, autant de mauvais, et je sais pas, enfin bref, moi ça me questionne tout le temps, mais mine de rien, il y a quand même cette bulle qui se fait autour de ces femmes et de cette communauté qui est tellement fragile, hein, c'est sur un fil, hein, à chaque fois. Évidemment, même Marie elle-même, elle est obligée de prendre des positions des fois un petit peu exigeante et difficile, parce qu'elle ne peut pas accueillir toute la misère du monde, comme on dit. C'est la facilité, mais c'est ça. Donc elle a un rôle assez ingrat, mais pour autant, elle est hyper humaine. Et voilà, ça reste une femme, et elle est en face de femmes. Elle peut pas se dire qu'elle va avoir la même attitude qu'un homme peut-être aurait, hein, je ne sais pas. Mais voilà, c'est vrai que c'est un film qui m'a... Enfin voilà, je trouvais que par rapport au cinéma, ce qu'on nous propose au cinéma sur cette question du racisme ou des migrants, c'était assez nouveau et c'était plaisant de... Enfin, plaisant, c'est pas du tout le terme, mais en tout cas, c'était...
une forme de bonne
surprise, entre guillemets, mais... Enfin, et de mauvaise en soi que de se dire que... En Tunisie, donc en Afrique, quand même, ça reste des Africains, et il y a cette intolérance aussi forte.
Ça décale le regard aussi, peut-être, pour nous.
Ça décale complètement le regard, oui. Mais formellement, le film est très, très réussi. Enfin, voilà, elle maîtrise bien la caméra.
Erigué Seyiri, pour Promis le ciel, qui est actuellement au Taï. Eh bien, on termine ce cinémascope avec Orwell, 2 + 2 = 5.
The words democracy, freedom, justice have each of them several different meanings, which cannot be reconciled with one another. Political language is designed to make lies sound truthful.
The love in the air, I've never seen anything like it.
And murder respectable. Freedom is slavery. War is peace. Ignorance is strength. Totalitarianism, if not fought against, could triumph anywhere.
Donc Orwell 2 + 2 = 5, un film de Raoul Peck, à qui l'on doit notamment I'm Not Your Negro, ou l'année dernière, je pense que c'était Ernest Cole. Très chouette film documentaire. Alors, Olivier, j'étais très très intéressée pour savoir ce que tu en as pensé, parce qu'il y a beaucoup à dire autour d'Orwell, et en commençant à préparer l'émission, en lisant quelques critiques, je me suis dit, peut-être que c'est un peu trop fourre-tout et que ça ne permet pas de penser, et quand je te vois réagir pendant la bande-annonce, je me dis, on penche peut-être de ce côté.
Bah t'as tout juste, le c'est à l'image de la bande-annonce, effectivement. Donc le film dure 2 heures, il nous parle d'Orwell et de ce fameux jeu que jouent tous les totalitarismes avec la vérité. Alors pendant 2 heures, nous avons un montage dans lequel nous pouvons voir des extraits de 1984 de Michael Anderson, sorti en 56, de 1984 de Michael Rutherford, sorti en 1984, de My Way Home de Bill Douglas, sorti en 1978. On voit aussi des extraits de La Ferme des Animaux, le film d'animation d'Andy Serkis, paru en 2025. On voit aussi des extraits du téléfilm d'animation pour la télé britannique de John Stephenson, 1999. Puis on voit à peu près 100 ans d'images d'archives, depuis la naissance d'Orwell, 1903, jusqu'à aujourd'hui. Et donc on a droit à des images sur le fascisme mussolinien, le nazisme, l'hitlérisme, Nuremberg, le stalinisme, les Khmers rouges, Pinochet, Javier Milei, Trump, Poutine, Modi, Orban, Franco, Xi Jinping, le mouvement, donc, enfin, la révolution iranienne, et puis le mouvement ensuite Femme, Vie, Liberté, bon, le problème iranien, on connaît. La Tunisie, dont nous parlions justement à l'instant. Israël, alors la Tunisie, mais pas l'Algérie, bizarrement. Israël, mais pas le Hamas. Enfin bon, on a aussi droit à l'affaire Khashoggi, le journaliste saoudien tué dans l'ambassade d'Arabie Saoudite à Ankara. On a aussi droit à l'affaire Navalny. En plus, donc, on a des plans sur l'île où... Orwell a fini sa vie. On a des images du sanatorium où il a été soigné. On a
Mais nous, on n'a pas deux heures.
Oui, et ben non, ben voilà. Ben je fais exactement ce qu'il a fait.
Oui.
C'est-à-dire que si vous prenez les 40 à 45 références, que vous divisez les 2 fois 3600 secondes par ce nombre de références, vous obtenez des séquences de moins d'une minute trente qui elles-mêmes sont redécoupées, évidemment, en plans différents. Donc, l'idée qui m'est venue, j'ai pensé aux fresques que je réalisais enfant avec des coquilles d'œufs. Vous savez, on prend des coquilles d'œufs, on les casse, et puis avec, on recompose une image avec... Voilà, voilà, c'est ça. Donc, on y comprend. J'ai beaucoup aimé ton introduction. Je me suis dit qu'à la limite, j'avais pas besoin... au-delà de la présentation factuelle que je fais, de dire autre chose que tu as dit. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas la place pour penser. On est face à un amalgame, à un déversoir d'images complètement hétérogènes. Alors, ça, c'est déjà un problème en soi. Ne pas pouvoir penser, c'est un petit peu emmerdant quand il s'agit de 2 plus 2 égale 5, parce qu'il semblerait qu'il soit question de la pensée, là, non ? Voilà, bon. Le problème, c'est que ça confine à la confusion. C'est-à-dire qu'il y a quand même, vers la fin du film, une ouverture vers la solution. Et la solution, c'est la prise en main populaire de l'action politique contre... les totalitarismes. Mais les totalitarismes sont eux-mêmes des prises en main populaires du pouvoir. Donc, vous avez des images de manifestations anti-extrême droite ou de manifestations pour les libertés, etc., qui finissent visuellement par se confondre avec les manifestations pro-Trump à l'époque à l'époque où on a vu que c'était Biden qui avait gagné les élections. Donc, en fait, on a une espèce de confusion. Et à tel point qu'il y a une autre confusion qui s'installe, c'est qu'on a des images de torture, en particulier des images tirées du film que je citais tout à l'heure, de Michael Anderson, 1984, où effectivement, on voit Winston, le héros de 1984, être torturé. Et elle se superpose quasiment avec les images de sanatorium où on montre des malades atteints de la tuberculose qui ont été opérés pour soigner leurs poumons, qui passent des radios, etc. Et les images des soins, qui sont des images noir et blanc des années 30, les images de soins finissent par ressembler aux images de torture. C'est assez confusant, c'est assez étonnant. Et alors, on arrive à la fin du film en se disant que finalement, Peck, il utilise pour faire passer son message, parce qu'il y a aussi des cartons, entre des cartons explicatifs avec des statistiques, etc. Donc, très didactique, au milieu de ce foutoir-là. Et à la fin du film, on se dit finalement, Peck, il a utilisé les mêmes méthodes que le totalitarisme pour faire passer son message anti-totalitaire. On a vraiment l'impression d'avoir été matraqué pendant 2 heures par des images souvent assez trash, ou si les images ne sont pas trash, elles renvoient à des événements dont on sait, nous, qui sont super trash. Quand on découpe un journaliste dans une ambassade, quand même, ça fait un peu désordre. Donc, si vous voulez, c'est un film dont on finit par se demander... Au-delà du fait que dans un premier temps, il ne sert visiblement à rien, on finit par se demander s'il n'est même pas contre-productif, quoi, tout à fait honnêtement.
Orwell, 2 plus 2 égale 5, eh ben, c'est à voir. Alors, quand
pour,
même.
Pour lui, 2 plus 2 égale 8.
Tu sais que même quand tu l'expliques, je suis essoufflé.
Oui. mais quand je préparais hier soir, je disais, purée, mais c'est vrai ce que je dis, quoi. C'est vraiment infernal, quoi.
C'est un film pour public averti, alors. Plus que. C'est pas didactique, quoi. Enfin, je veux dire.
Il y a un risque de contre-productif, ouais. Ah, moi, je trouve. Et alors, le problème, c'est que quand t'es averti, je pense que concernant les réflexions sur le totalitarisme, je fais un peu partie des gens avertis, puisque c'est quand même au cœur de mes cours de philo-politique et de sciences politiques. Quand on est averti, alors, effectivement, on subit d'autant plus le côté matraquage ultra-didactique. Alors que c'est marrant, parce que d'aller voir... juste après avoir été voir ce film, j'avais des élèves en cours, et on parlait des dérives possibles de la démocratie en totalitarisme. Et donc, en plus, avec un petit groupe d'élèves, donc on a vraiment pu penser, et ça faisait contraste, la manière dont, j'amenais les élèves à repérer le danger de la pensée majoritaire, simpliste, comment, effectivement, ensuite, elle peut devenir carrément fautive de plus 2 égale 5, etc. C'est intéressant de voir comment, avec un petit groupe d'élèves avec lesquels vous faites de la philo-politique, ils vont trouver ces problématiques, et comment, s'ils vont voir le film, ils vont se demander quoi penser, quoi, en fait.
Alors que dans un même temps, ouais, en deux heures, ça produit pas le même effet. Ok.
Ouais. Et moi, c'est des cours... Je parle des cours de jeudi, c'est des cours d'une heure. Donc en une heure, on arrive à démonter les mécanismes totalitaires, en utilisant d'ailleurs, entre autres, Orwell, mais pas que, Camus, bien sûr, Simone Veil, etc. Simone Veil W. Hein, W. Donc on arrive en une heure, on arrive en une heure, on arrive à faire penser des élèves sur les dérives totalitaires. Là, en deux heures, on finit par plus comprendre la différence entre un mouvement populaire de libération et un mouvement populaire de totalitaire.
Eh bien, c'est clair. Le navire à Aubenas ou le Teil à partir du 1er avril projette cette Orwell. Sinon, dans le reste de l'actualité du cinéma, c'est depuis hier soir. J'ai noté ce soir, mais je me demande si c'est la bonne date. Ce soir, à 20h, pour l'honneur de Gaza, dans le cadre du festival Palestine en vue, qui a lieu au navire. Dimanche, il y aura aussi, à 17h, une roi, ouais, 75 ans d'une histoire provisoire, et une maison à Jérusalem. Voilà, sinon, on peut aussi noter à Fabras, ce soir, le Chant des Forêts. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu, c'est à 20h30.
Je précise que le Chant des Forêts et Fabras, là, ça rentre dans le cadre du cinéma au village. C'est le démarrage de cette action, on va dire, dans les villages et en partenariat avec le PNR et le département de l'Ardèche qui nous soutient. Mais en tout cas, voilà, c'est des différentes... Enfin, il y a une quinzaine de projections par an qui sont organisées dans ce cadre-là.
Ok, donc à partir de maintenant, ça c'est la première, et jusqu'à quand ? C'est tout le printemps ?
C'est tout le printemps, et ça reprend après, il y a une deuxième phase en septembre.
Ok, et puis, que dire d'autre ? À Tueil, c'est le retour de Maigret, ce soir, à 20h30, retour de Maigret dont tu avais parlé.
Oui, qui j'allais le dire si tu l'avais omis, que c'est un film qui est quand même très très agréable à regarder, avec une belle performance de Denis Podalydès, et puis aussi d'Irène Jacob.
Qui est vraiment un caméléon, hein, ce Podalydès.
Ah oui, non, c'est incroyable. Non, c'est vraiment,
il était Mitterrand il y a encore peu de temps.
Oui, il a été Jean-Paul Sartre aussi. Enfin, c'est assez étonnant. Rien que pour ça, c'est à voir, mais pas que pour ça. Il y a aussi Anne Alvaro qui est extraordinaire, et toute une série de second rôles que vous allez reconnaître, dont j'avais cité les noms dans une précédente Cinémascope. C'est vraiment de la belle qualité française, quoi. C'est sympa.
Et puis aussi un film qu'on vous aviez projeté pendant les rencontres des cinémas d'Europe, c'est Différentes, qui sera projeté ce samedi à 15h au cinéma Le Foyer à Rosières avec l'association Éduc Ardèche pour célébrer la journée mondiale contre l'autisme. Et enfin, au Vence, est-ce qu'il n'y aurait pas la projection dimanche de Sur la tête des oiseaux dans le cadre du programme des vivants et des morts ?
Oui, tout à fait. C'est accompagné par le Ressort, qui qui a déjà fait une séance l'année dernière sur ce thème-là et qui nous propose un film sur la tête des oiseaux qui est un documentaire porté par Ardeschimage de mémoire et qui va nous proposer, donc c'est vraiment le ressort qui a choisi le film et moi je ne l'ai pas vu, je vais le découvrir en même temps, et qui vont nous proposer un film assez expérimental sur accompagné de diapositives en fait. Voilà, sur le thème du deuil. Et si je peux me permettre aussi un tout petit clin d'œil, il y a un film qui sort le 1er avril qui s'appelle Plus fort que moi, qui est un film sur le syndrome du Gilles de la Tourette et qui est à voir absolument. Donc je ferai peut-être une critique la semaine prochaine sur le film. Et on a un événement fin avril avec un ciné-débat sur le thème. Voilà, donc je teaserai un peu plus les prochaines fois.
Merci. Habile, il l'a déjà glissé maintenant. Merci beaucoup à tous les trois, Olivier, Cathy, Alexis, d'avoir discuté cinéma. Et merci, Sylvain, pour la réalisation de cette émission. Et bien, on se retrouve, quelle surprise, vendredi prochain pour plus de cinéma. Ciao.